Mourir dans la dignité, droit de mourir dans la dignité, c'est le nom d'une association qui milite pour la reconnaissance légale de l'euthanasie. Mais mourir dans la dignité, c'est ce que veulent tous les malades. Donc je crois qu'il ne faut pas confisquer cette expression. Et je pense que là, il faut tenir compte de ce qui fait peur aux gens. Les principales peurs, c'est la peur de souffrir, la peur de perdre ses capacités intellectuelles et d'être livré à la médecine, la peur d'être une charge pour les autres et la peur d'être abandonné. Ces quatre grandes peurs, bon, en plus de la peur de la mort, mais il y a la peur du mourir avant, du temps du mourir. Et quand les personnes ont l'impression qu'on peut faire un peu n'importe quoi d'eux, ils se retournent vers des associations qui leur promettent une mort dans de bonnes conditions, en décidant du jour de sa mort. Mais si la médecine est plus raisonnable, si l'accompagnement est davantage fait, il y a beaucoup de craintes qui tomberont et on n'aura pas besoin de légiférer sur l'euthanasie pour apaiser les personnes en fin de vie.
Comment vous faites pour répondre justement à sa peur face à la souffrance physique et psychologique?
Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la relation. Pour soulager, c'est d'abord quand même une analyse fine des symptômes du malade. La prescription de médicaments, la discussion avec lui de ce dont il a besoin. Bon, les médicaments, on les réadapte 3 à 4 fois par jour. Alors, ces médicaments ne seraient rien s'il n'y avait pas la parole avec, et s'il n'y avait pas tous ces petits gestes qui est la bonne position du malade, tout ce qui va contribuer à sa détente. Bon, on va aussi faire attention à sa situation psychologique et familiale.
Certains disent ne pas pouvoir supporter d'aller voir leur père ou leur mari en fin de vie. Et c'est même peut-être souvent plus les familles qui revendiquent un droit à laisser mourir, avoir un droit à l'euthanasie.
Effectivement, il y a toujours un moment un peu de désarroi pour les familles. Et ce qui est compliqué, c'est quand il n'y a pas de communication. Alors parfois, il n'y a pas de communication parce que la maladie empêche la communication. Parfois, c'est parce que la vie a toujours été compliquée qu'il n'y a pas eu communication. Et je crois que nous, soignants, ou les bénévoles aussi, y contribuent, on est des facilitateurs de communication. On est le tiers qui peut justement refaire circuler la parole. Je crois qu'on aide les familles à reprendre leur place de proche du malade.
Et quel est le regard que vous portez sur la mort que vous côtoyez au quotidien?
Vous savez, la mort, elle est toujours surprenante. Et pour moi, c'est pas parce que je la côtoie tous les jours que je me fais à la mort. Je suis sûre que je serai complètement prise au dépourvu pour moi-même, que je serai aussi très désemparée quand viendra la mort de mes proches. La seule chose que je sache, c'est que la fin de vie peut être autre chose qu'une fin de vie horrible et qu'on peut effectivement vivre des choses très très importantes lorsqu'on prend en considération justement les différentes facettes de la souffrance de la personne. Ce que je dirais surtout, c'est que la fin de vie est un temps où l'être humain se simplifie, il n'a plus besoin de tenir des apparences et du coup il y a une relation beaucoup plus profonde et beaucoup plus authentique.
On dit que quand un malade qui demande l'euthanasie est entouré, les demandes d'euthanasie finalement diminuent. Est-ce que vous avez été témoin justement de ce phénomène?
Oui, il y a beaucoup de demandes d'euthanasie qui tombent lorsque le malade est soulagé, qui sent qu'on est attentionné à son égard. Bon. Maintenant, il restera quand même des demandes d'euthanasie qui sont liées à des conceptions philosophiques différentes. Quand quelqu'un estime que parce qu'il est paralysé, il n'est plus un être humain, ou que parce qu'il a des failles au niveau de ses facultés intellectuelles, il n'est plus un être humain, là, ce sont deux conceptions humaines différentes qui s'affrontent. Maintenant, quand il y a des conceptions philosophiques et anthropologiques différentes, on discute. Et plusieurs malades m'ont dit qu'en fait, la discussion leur avait permis de prendre conscience qu'ils étaient encore quelqu'un jusqu'au bout. On parle beaucoup d'accompagnement spirituel aujourd'hui, au sens très très large du terme, et je trouve que c'est important de dire le sens large du terme, car même personnes athées sont sensibles à ce questionnement existentiel du sens de la vie. Il faut savoir entendre ces questions et découvrir avec lui. Là, on est témoin puisque acteur, découvrir avec lui ce qui a été bon, ce qui a donné du sens. Et parfois, c'est peut-être qu'un seul événement dans la vie, mais il existe.